Laudetur Jesus Christus.
Donald Trump double les droits de douane sur l'acier et l'aluminium et frappe de plein fouet le Canada, mais aussi l'Europe. Bruxelles n'a pas dit son dernier mot. Des négociations doivent se tenir ce mercredi à Paris. L'Afghanistan fait face à un retour massif de réfugiés. Après des expulsions massives de familles afghanes par le Pakistan, mais aussi l'Iran, correspondance régionale à suivre. 8 des 10 crises de personnes déplacées dans le monde se trouvent sur le continent africain. C'est ce que révèle le Conseil norvégien pour les réfugiés dans un rapport publié ce mardi. On en découvrira les raisons avec un porte-parole de l'organisation. Parmi les pays les plus oubliés figure la RDC. Les différentes forces politiques peinent à s'allier pour en venir à bout de la crise sécuritaire à l'Est. C'est dans ce contexte que l'ancien président Joseph Kabila a fait son retour à Goma. Analyse de ses intentions dans notre dossier en fin de journal. Mais avant cela, on entendra le pape Léon XIV qui reprend le flambeau des vidéos mensuelles de prières de François. Sa première intention pour ce mois de juin, grandir dans la compassion en apprenant du cœur de Jésus.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. Ils sont entrés en vigueur dans la nuit. Les nouveaux droits de douane de Donald Trump sur les importations d'acier et d'aluminium. La surtaxe de 25% appliquée le 12 mars dernier passe à 50% et frappe particulièrement le Canada, premier fournisseur des États-Unis, mais aussi les industriels européens. L'Union européenne a beau avoir vivement regretté samedi dernier l'annonce de doublement des droits de douane du président américain, elle continue à croire qu'elle pourra parvenir à un accord négocié avec Washington, même si les chances semblent s'amenuiser. À Bruxelles, Pierre Pénazé.
Le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, doit rencontrer à Paris ce matin son homologue Jamieson Greer, chargé du commerce international. La commission continue de proposer aux États-Unis des droits dits zéro pour zéro, c'est-à-dire l'absence de droits de douane des deux côtés de l'Atlantique. Mais dans l'ensemble, les Européens ne se font pas d'illusions. Ils savent que Donald Trump a besoin de recettes fiscales rapides pour tenir à l'automne ses promesses de baisse d'impôts. Ils peuvent toujours espérer que la justice américaine lui donne tort sur le fond en appel et lui interdise d'émettre des droits de douane, prérogative du Congrès. Mais en attendant, ils sont toujours soumis à des droits de 25% sur l'automobile, de 50% désormais sur l'acier et de 10% sur l'ensemble des biens exportés. Il s'agit de la partie plancher des droits baptisés erronément réciproques par Donald Trump, puisque pour l'instant, seuls les droits de 10 points supplémentaires sont en pause jusqu'en juillet. L'Union européenne a elle-même suspendu ses mesures de rétorsion, un signe de bonne volonté pour obtenir des concessions, mais elle prévient que si aucune solution acceptable n'est trouvée d'ici là, elle les enclenchera au plus tard le 14 juillet prochain. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Et dans ce contexte de tension commerciale, le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré hier à Pékin le nouvel ambassadeur américain pour la Chine. À l'issue de cet échange, il a appelé à des relations saines entre les deux pays. La Maison-Blanche a assuré récemment que Donald Trump espérait échanger avec son homologue chinois Xi Jinping cette semaine. Les deux puissances s'accusent mutuellement de mettre en péril la trêve commerciale négociée en mai à Genève. Autre négociation en cours pour Washington, celle avec Téhéran sur le nucléaire iranien. Ces négociations indirectes menées par le sultanat d'Oman ont commencé en avril, mais bloquent sur la question de l'enrichissement en uranium. Une ligne rouge, a réaffirmé hier le ministre des Affaires étrangères depuis le Liban. Téhéran reste cependant disposé à mettre en place des mesures afin d'assurer que cet enrichissement ne conduira pas à la production d'armes nucléaires, a précisé le chef de la diplomatie iranienne. Les Nations Unies s'inquiètent d'une hausse alarmante des expulsions de familles afghanes par l'Iran. Plus de 15 000 familles ont été renvoyées au mois de mai. C'est deux fois plus que le mois précédent, avec le Pakistan qui accélère également les expulsions. L'Afghanistan fait face depuis quelques mois à un retour massif de réfugiés. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
Depuis qu'ils ont repris le pouvoir, les talibans tentent de réchauffer les relations avec leurs voisins. Si cette diplomatie a permis d'attirer des investisseurs chinois et d'Asie centrale, certains comme l'Iran accélèrent les renvois de réfugiés. L'ONU a indiqué mardi que plus de 450 000 Afghans avaient été expulsés depuis janvier. Et les talibans ont recensé 5 millions de retours au total en 4 ans. L'économie est incapable de fournir un emploi ou un logement à cette population et la situation devrait s'aggraver alors que l'aide humanitaire diminue. La guerre en Ukraine et à Gaza accapare les donateurs, si bien que l'Afghanistan reçoit de moins en moins d'argent. Selon l'ONU, les sommes allouées aux ONG et à ses agences ont été divisées par deux en trois ans pour tomber à 1,5 milliard de dollars en 2024. De leur côté, les États-Unis s'étaient imposés comme le principal donateur en versant 20 milliards d'euros depuis le retour des talibans. Mais au printemps, l'administration Trump a suspendu cette assistance financière. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
L'Iran, pays qui figure parmi les 10 crises de déplacés les plus négligés de la planète, à ses côtés le Honduras et 8 pays africains. Ce constat émane du Conseil norvégien pour les réfugiés, dont le rapport annuel est paru hier. Après le Cameroun en tête de liste, viennent l'Éthiopie, le Mozambique, le Burkina Faso ou encore le Mali. Très communs à ces États, ils sont le théâtre de mouvements de population engendrant des tensions humanitaires aiguës, mais suscitant que peu de visibilité médiatique ou de volonté diplomatique. Hassan Amadou est directeur régional d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il nous explique les raisons de cette indifférence.
Il y a une forme de fatigue de la part des bailleurs, mais il peut aussi avoir une forme de distance où la crise est perçue comme une crise lointaine, voire complexe, et ça ne mobilise pas de l'engagement comme certaines des crises qui sont beaucoup plus proches, soit culturellement, soit géographiquement, des pays donateurs. Nous considérons que la négligence n'est pas une fatalité, ce n'est pas un accident, c'est une action de prioriser ou de déprioriser les contextes. Quand nous prenons, par exemple, l'année 2024, on voit que le monde dépense 6,7 milliards de dollars par jour pour des dépenses militaires. Quand on voit le déficit qu'il y a au cours de la même année, le déficit pour la réponse humanitaire, elle est de 25,29 milliards. Cela veut dire que 3 à 4 jours de dépenses militaires suffit à couvrir 100% de couverture des financements. Donc ça montre le grand déséquilibre entre les priorités des nations et le niveau de négligence par rapport à ces crises humanitaires.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales a entamé hier une visite de 3 jours à La Havane à l'occasion du 90e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Cuba. Ce mercredi, Mgr Paul-Richard Gallagher doit rencontrer les évêques du pays. Une messe sera célébrée à la cathédrale de La Havane. Il échangera également avec le ministre des Affaires étrangères avant de rencontrer demain le président de la République puis le premier ministre cubain. C'est une tradition inaugurée par François en 2016 et reprise par Léon XIV. Moins d'un mois après son élection, le nouveau pontife a décidé de participer à la vidéo d'intention de prière proposée chaque mois par le réseau mondial de prière du pape, fondé par les jésuites en 1844. Sa première intention de prière invite à grandir dans la compassion en puisant dans le cœur de Jésus, Marie Duhamel.
Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus.
Prions pour que chacun d'entre nous trouve la consolation dans une relation personnelle avec Jésus, apprenne de son cœur la compassion à l'égard du monde. C'est donc l'invitation de Léon XIV adressée en anglais pour le mois de juin sur fond d'image de l'église du Gesù à Rome et du sanctuaire national du Sacré-Cœur à Makati aux Philippines. Une prière au cœur de Jésus est donc proposée, lui qui déverse sa compassion sur les petits et les pauvres, sur ceux qui souffrent, sur toutes les misères humaines. Je désire apprendre de toi, change, façonne, transforme nos projets, afin que nous ne cherchions que toi dans chaque circonstance, dans la prière, le travail, les rencontres, dans notre routine quotidienne, récite cette prière. Envoie-nous en mission de compassion pour le monde dans lequel tu es la source de toute consolation. Ce thème a été choisi alors que l'Église catholique vénère spécifiquement le Sacré-Cœur de Jésus le troisième vendredi après la Pentecôte, une dévotion populaire relancée en France au XVIIe siècle et qui a fait l'objet de 4 encycliques écrites par Léon XIII, Pie XI, Pie XII et François en 2024.
Marie Duhamel, une vidéo à retrouver sur notre site internet bien sûr. Et puis d'ici un peu plus d'une heure maintenant, à 10h heure de Rome, l'audience générale du pape Léon XIV, place Saint-Pierre, à suivre sur notre antenne également. Il y a une semaine maintenant, République démocratique du Congo, Joseph Kabila est apparu devant la presse à Goma, ville contrôlée par les rebelles du M23 AFC, marquant ainsi son retour après des années de silence. Depuis, l'ancien président mène des consultations avec des chefs religieux, représentants de la société civile et autorités du Nord Kivu, et multiplie les attaques contre le gouvernement, jugé responsable de la situation à l'est du pays. L'ex-chef d'État monte d'un cran dans son bras de fer avec Kinshasa, et fait naître des soupçons de connivence avec le groupe armé. En signe de représailles, le Sénat, dominé par le parti du président Félix Tshisekedi, a levé son immunité de sénateur à vie, ouvrant la voie à des poursuites. Mais à l'heure où les négociations pour une sortie de crise patinent, aussi bien à Washington qu'à Doha, Joseph Kabila tente de se présenter comme le seul capable de sauver le pays. Quelles sont ses intentions? Élément de réponse avec Bob Capamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège, spécialiste de la région des Grands Lacs.
Il y a plusieurs façons de pouvoir voir cette arrivée de Kabila à Goma. C'est-à-dire que le Congo fait face à beaucoup de défis, des défis sécuritaires, des défis économiques, des défis sociaux, des défis de cohésion sociale, des défis de santé, etc., etc. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes. Et la seule piste, carrément, que toute la communauté internationale essaie de dire à Kinshasa, c'est qu'il faut qu'il y ait une solution politique. Une solution politique veut dire qu'il puisse y avoir des discussions pour résoudre toutes ces difficultés, au-delà même de la question liée à la question sécuritaire. Or, ceux qui n'ont pas pris les armes ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés par Kinshasa. Alors, ceux qui prennent les armes, eux, sont écoutés. Et le fait que le M23 est en train de discuter avec Kinshasa à Doha, et Kinshasa refuse de pouvoir discuter avec les autres acteurs politiques du Congo. Et même l'initiative donc, de la CENCO et de l'ECC, où ils proposent de pouvoir justement avoir un dialogue où tous les politiciens vont discuter, même ça, Kinshasa refuse. Et alors Kabila, en allant à Goma, c'est une façon de pouvoir faire pression sur Tshisekedi pour qu'il accepte enfin de prendre en considération cette demande de discuter et d'essayer de résoudre les problèmes sécuritaires et autres qui se posent au Congo.
C'est le choix de la confrontation face à Félix Tshisekedi. On peut voir ça comme un défi lancé à Kinshasa?
C'est comme un défi lancé à Kinshasa, du fait que Kabila a eu la levée de ses immunités parlementaires avec une procédure inique, et aussi ensuite parce qu'il y a déjà la menace de confiscation de ses biens, etc., etc. Le fait aussi qu'une bonne partie de sa famille est à l'étranger, son parti politique est menacé de suspension, et beaucoup d'opposants sont soit à l'exil, soit en prison. Et donc tous ces faits-là, c'est pour justement essayer de faire pression sur Kinshasa en disant « Ok, on ne va pas se laisser faire » et qu'il y a toujours plusieurs moyens de pouvoir faire pression. Et je pense que Goma est une des façons de faire pression. Par ailleurs aussi, il faut souligner que Tshisekedi a peur qu'il puisse y avoir un mariage entre le M23 AFC et Kabila, ce qui pourrait changer la donne non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau sécuritaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kabila, c'est lui qui a fait cette armée, qu'il a créée depuis 18 ans, c'est lui qui a fait le rassemblage de toutes les rébellions qu'il y avait à l'époque, et c'est lui qui était le commandant suprême de cette armée pendant plusieurs années.
Pourquoi ce timing, revenir à Goma au moment même où le conflit s'intensifie à l'Est? Quelles sont les intentions de Joseph Kabila?
Je pense que c'est une façon aussi de marquer le terrain. On l'a vu, il était absent pendant 6 ans. La plupart d'analystes disaient que c'était un homme politique fini, ce n'était plus un acteur majeur de l'espace politique congolais, et que je pense que aussi c'est un signal fort qu'elle a voulu lancer, non seulement vis-à-vis de Kinshasa, mais aussi vis-à-vis de ses partisans. Ses partisans, non seulement au niveau politique, mais aussi de sa région, puisque la région de Katanga est pour l'instant un peu en difficulté liée au fait que beaucoup d'officiers katangais sont arrêtés, beaucoup de politiciens katangais sont soit en exil, soit arrêtés aussi. Il y a une grogne katangaise qui monte et qui reproche justement à Kabila de laisser faire cette détérioration du climat politique et social. Et aussi la question des mines, où on accuse la famille Tshisekedi de s'accaparer des mines katangaises. Le timing n'est pas anodin. Et puis il faut ajouter le fait que les différentes discussions sont en panne. Au niveau des discussions à Washington entre le Rwanda et le Congo, on n'avance pas sur la question minière de l'Est. À Doha, où il y a des discussions directes entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa, là aussi, il y a blocage. Au fur et à mesure que les discussions de Doha s'enlisent, Kabila, par son retour à Goma, va prendre de plus en plus de la place, et il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il devienne l'acteur principal de la RDC.
Bob Capamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège et spécialiste de la région des Grands Lacs, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. D'ici 1h15, l'audience générale du pape Léon XIV, place Saint-Pierre, à suivre sur nos ondes. Belle matinée à toutes et à tous.